Chapitre 1, 1800-1814, les Français à Milan. Pendant que Napoléon était en Égypte, les Autrichiens, à la tête d'une nouvelle coalition, attaquèrent l'armée française inférieure en nombre et l'obligèrent à se retirer en Suisse. Milan redevint, après 2 ans d'occupation française, une capitale autrichienne. Mais ce succès fut de courte durée. À peine rentré d'Égypte, Napoléon forma une armée à Dijon, franchit le col du Saint-Bernard, écrasa les Autrichiens à Marengo et entra triomphalement dans Milan. L'ivresse des Milanais fut au comble, mais cette fois, elle était mélangée d'idées de vengeance. On avait appris la haine à ce bon peuple. Le retour des Français fut le signal du départ pour les familles les plus compromises. Chef de file du parti de l'épuration, le marquis del Dongo fut parmi les premiers à rejoindre son château de Grianta sur les bords du lac de Côme. Peu de jours après la victoire, le lieutenant Robert, devenu entre-temps général, reprit ses quartiers chez la comtesse del Dongo, laquelle avait de son côté donné naissance à son second fils, Fabrice Valsera, Marchesino del Dongo, comme on dit à Milan. Sauf que le marquis, réfractaire à toute idée nouvelle en matière de partage, avait déjà décrété que toute la fortune de la maison serait réservée à son fils aîné, Ascagne del Dongo, le digne portrait de son père, faux et mielleux comme lui. Il avait 8 ans et Fabrice 2 lorsque les Français s'installèrent à nouveau à Milan. Le marquis, qui avait fait ses bagages pour son château de Grianta, croyait fermement que cet exil lui serait moins amer. Une prophétie de Sainte Jovita, le patron de Brescia, circulait sous le manteau qui annonçait que les prospérités des Français et de Napoléon cesseraient 13 semaines juste après Marengo. Comme beaucoup de ses fermiers et des curés de campagne, le marquis y crut. Pendant 13 ans. De cette assez longue période de progrès et de bonheur, Fabrice passa les premières années de sa vie au château de Grianta, donnant et recevant force coups de poing au milieu des petits paysans du village et n'apprenant rien, pas même à lire. Plus tard, on l'envoya au collège des Jésuites à Milan. Sa mère, qu'il adorait, obtenait de temps en temps la permission de venir le voir à Milan. Mais son mari, ne lui offrant jamais d'argent pour ses voyages, c'était sa belle-sœur, l'aimable comtesse Pietranera, qui lui en prêtait. Après le retour des Français, la comtesse était devenue l'une des femmes les plus brillantes de la cour du prince Eugène, vice-roi d'Italie. Lorsque Fabrice eut fait sa première communion, elle obtint du marquis, toujours exilé volontaire, la permission de le faire sortir quelques fois de son collège. Elle trouva son neveu singulier, spirituel, fort sérieux, mais joli garçon, et ne déparant pas trop le salon d'une femme à la mode. La comtesse profitait par ailleurs de ses jours pour introduire son protégé dans tous les salons napoléoniens, lui faisant faire la connaissance des personnages les plus influents de la cour du prince Eugène, et l'emmenant à toutes les fêtes brillantes qui marquèrent l'occupation française. Elle l'avait créé de son autorité officier de hussards et faisait porter à Fabrice cet uniforme. Quand il eut connaissance de cette folie, le marquis frémit de rage. Il trouva un prétexte pour rappeler son fils à Grianta. La comtesse méprisait souverainement son frère. Elle le regardait comme un sot triste et qui serait méchant si jamais il en avait le pouvoir. Mais elle était folle de Fabrice. Son neveu lui manquait à tel point qu'elle écrivit au marquis pour le lui réclamer. Sa lettre fut laissée sans réponse. En arrivant au château de Grianta, Fabrice, les yeux encore rouges des larmes répandues en quittant les beaux salons de sa tante, reçut un accueil glacial de son père qui lui signifia qu'il ne quitterait plus le château et qu'il allait devoir abandonner toutes ses idées libérales dont sa tante lui avait bourré le crâne. « Et ses études ?» demanda sa mère, les larmes aux yeux de voir son fils traité si durement. « Voulez-vous en faire un ignorant ?»« C'est un del Longo. Il n'a pas besoin de faire de grandes études. Notre abbé suffira. D'ailleurs, Ascagne, qui n'a pas fait d'études, réussit très bien à administrer nos terres, et en partie double. Est-il pour autant ignorant ?»«
Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. » rectifia la marquise.
« Non, mais c'est ce que vous pensez. Depuis que ces maudits Français sont arrivés à Milan, et dans notre demeure, qui plus est, vous vous êtes rallié aux idées de ma folle de sœur et de ce lieutenant. Comment s'appelait-il déjà ?»«
Robert, il est général maintenant. »«
Il ne sera bientôt plus rien, madame. Avez-vous entendu parler de la Bérésina ?
Général d'une armée en déroute, voilà ce qu'il est aujourd'hui. Et nous ne le reverrons plus. Quant à ma sœur, à sa place, je me ferai oublier. Le comte patriote Pietranera est sur notre liste noire, et il paiera pour avoir collaboré avec les Français. Viens, Ascagne, allons travailler. » Ascagne, flatté, lança un regard supérieur à son frère et suivit son père dans son cabinet. Quelques mois plus tard, le chiffre 13 fatidique honora finalement la prédiction du saint patron de Brescia. Napoléon vaincu, Paris occupé par les Prussiens et l'exil de l'empereur à l'île d'Elbe procurèrent au marquis une exaltation indescriptible. Le jour où les troupes autrichiennes entrèrent à Milan, il mit son habit impérial, y accrocha toutes ses décorations et établit la liste de tous ceux qui avaient collaboré avec l'ennemi. Aidé en cela par les Milanais qui avaient bien changé, saigné à blanc par les Français pendant de longues années, leur rage se retourna contre tous ceux qui avaient profité de l'occupation. Le comte Pietranera fut l'une des premières victimes de l'épuration qui suivit le retour des Autrichiens. De son côté, Fabrice s'était pris d'affection pour son précepteur, l'abbé Banès, homme simple et sage, qui passait ses nuits dans le clocher de son église, à observer dans une petite lunette le mouvement des astres. « Sur Napoléon, que disent les astres ?»« Pourquoi veux-tu le savoir ?»« C'est à croire que je ne t'ai rien enseigné. Tu es myope comme tous les jeunes. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. » »« Comment pourrais-je regarder plus loin ? J'ai tant de problèmes ici maintenant. Mon père ne m'aime pas et moi je le hais. » Quand il parle des Français et de la Révolution, je voudrais lui planter un couteau dans le cœur. Mon frère me méprise et c'est réciproque. Quant à ma mère, elle dit qu'elle m'aime. Mais elle me trouve faible et distrait. Elle ne comprend pas que ce sont mes scrupules qui sont cause de ma faiblesse. Et ma distraction vient de l'espoir que j'ai de devenir meilleur. Tu n'es ni faible ni distrait. Tu es seulement sincère. Et j'aimerais que tu le restes. Si tu ne deviens pas hypocrite... « Tu seras peut-être un homme, » lui répondit le prêtre. Après la mort de son mari, la comtesse Pietranera se trouva brusquement appauvrie. Son frère, le marquis del Dongo, l'aurait volontiers laissé croupir à Milan avec la maigre pension de son défunt mari. Mais il craignait que ses ennemis, envieux de l'estime que lui portait l'empereur d'Autriche, n'en profitent pour attaquer sa réputation. Il lui écrivit donc qu'un appartement et un traitement digne d'elle l'attendait au château de Grianta. L'âme mobile de la comtesse embrassa avec enthousiasme l'idée de ce nouveau genre de vie. « Là, se disait-elle, je trouverai le repos, et à mon âge, n'est-ce pas le bonheur? Sur ce lac sublime où je suis né m'attend enfin une vie heureuse et paisible. » Gina Pietranera apporta la joie de vivre au château de Grianta, où le marquis et son fils aîné, personnage terne et sans esprit, faisait régner un ennui mortel. Les jeunes sœurs de Fabrice étaient folles de joie à l'annonce de l'arrivée de leur tante. « Tu m'as rendu les beaux jours de ma jeunesse, » lui dit sa belle-sœur en l'embrassant. « La veille de ton arrivée, j'avais 100 ans. » Les retrouvailles avec Fabrice furent émouvantes. Elle l'avait quitté enfant, elle le retrouvait jeune homme. En le revoyant, après plusieurs années de séparation, tout son passé revint brusquement à sa mémoire, avec ses joies, ses épreuves, son deuil. Fabrice lui rendait son cœur de 16 ans. Elle ne l'en aima que plus passionnément. Le 7 mars 1815, à l'heure de la promenade, une barque parut, venant du côté de Côme, et fit des signes singuliers. Un agent du marquis sauta sur la digue. Napoléon venait de débarquer au golfe de Juan. Le lendemain 8 mars, à 6 heures du matin, Fabrice frappait à la porte de la comtesse Pietranera. « Je pars, » lui dit-il. « Je vais rejoindre l'empereur. Cette nuit, mon ami Vasi, le marchand de baromètres, m'a donné son passeport. Maintenant, je t'en prie, donne-moi quelques Napoléons, car je n'en ai que 2 à moi. Mais s'il le faut, j'irai à pied. » La comtesse pleurait de joie et d'angoisse. « Grand Dieu ! « Pourquoi faut-il que cette idée te soit venue ?» s'écriait-elle en saisissant les mains de Fabrice. Elle se leva et alla prendre dans l'armoire au linge, où elle était soigneusement cachée, une petite bourse ornée de perles. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. « Prends, » dit-elle à Fabrice, « mais au nom de Dieu, ne te fais pas tuer. Que restera-t-il à ta malheureuse mère et à moi si tu nous manques ?» Les yeux de Fabrice se mouillèrent. Il répandit des larmes en embrassant la comtesse, mais sa résolution de partir ne fut pas un instant ébranlée. « Promets-moi de ne pas partir sans embrasser ta mère et tes sœurs, » supplia la comtesse. « Tu les ferais trop souffrir. » La marquise fondit en larmes en apprenant l'étrange projet de son fils. Elle n'en sentait pas l'héroïsme et fit tout son possible pour le retenir. Quand elle fut convaincue que rien au monde, excepté les murs d'une prison, ne pourrait l'empêcher de partir, elle lui remit le peu d'argent qu'elle possédait. Puis elle se souvint qu'elle avait, depuis la veille, 8 ou 10 petits diamants valant peut-être 10 000 francs que le marquis lui avait confiés pour les faire monter à Milan. Les sœurs de Fabrice entrèrent chez leur mère, tandis que la comtesse cousait ses diamants dans l'habit de voyage de notre héros. Elles furent tellement enthousiasmées de son projet, elles l'embrassaient avec une joie si bruyante qu'il prit à la main quelques diamants qui restaient encore à cacher et voulut partir sur le champ. Puis il embrassa ces personnes qui lui étaient si chères et sortit à l'instant même sans se retourner. Il marcha si vite, craignant toujours d'être poursuivi par des gens à cheval, que le soir même il entrait à Lugano. Grâce à Dieu, il était dans une ville suisse et ne craignait plus d'être agressé sur la route solitaire par les domestiques de son père. De ce lieu, il lui écrivit une belle lettre. Faiblesse d'enfant qui donna de la consistance à la colère du marquis. Le lendemain, Fabrice prit la poste et passa le Saint-Gothard. Son voyage fut rapide et il entra en France par Pontarlier. Quand le marquis d'Aldongo reçut la lettre de Fabrice, il entra dans une rage sourde, s'enferma dans son cabinet et ne voulut voir personne, pas même son fidèle Ascagne, qui se retrouva seul, absolument seul dans ce grand palais où ni sa mère ni ses sœurs ne lui adressaient plus de 3 ou 4 mots par jour. Après plusieurs jours de cet isolement insupportable, il se fit conduire à Milan, demanda à être reçu par le général gouverneur de la ville et dénonça son frère Fabrice, qui avait quitté le château pour rejoindre l'armée de Napoléon.